Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt. Les mecs que je veux ken. Bonjour, bonsoir, guten tag, buonasera, benvenuto dans l'avant-dernier épisode de mon podcast Les mecs que je veux ken. J'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop dur, que vous avez trouvé vos habitudes et que vous ne vous angoissez pas trop pour l'avenir. De mon côté, ça va. Je fais un peu le bilan, calmement, sommairement en chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Oui, vous savez, j'aime bien faire ça. Non mais, dans le sens où, vous allez voir, cet épisode 19 est un peu particulier, j'ai invité mon tout premier véritable petit copain, l'homme qui m'a dépucelé. J'aime pas hein, ce mot dépucelé, on entend plus, vous êtes d'accord? Déflorer ses mièvres, l'homme qui m'a ôté ma virginité, pouah, le verbe est pas bon, non, j'y tenais pas à ma virginité, hein, je voulais m'en débarrasser. Bref, l'homme avec qui j'ai partagé mes premiers émois amoureux et sexuels, Mickaël. Et il n'est pas humoriste, donc la discussion, je vous préviens, n'est pas toujours méga marrante. Mais, j'espère qu'elle vous intéressera. En fait, j'ai fait une liste, un tableau, des différents profils d'entertainer que j'ai reçus dans la saison 1 de mon podcast, sous forme de jeu des 7 familles. Vous êtes prêts? Dans la grande famille des humoristes, je demande en 1... la sous-famille des podcasteurs, très à l'aise dans le flot de la discussion fleuve, longue, libre et légère. Florent Bernard, le Floodcast, Seb Melia, 4 comiques dans le vent mais à contresens, Ghislain Blix, sympa la vie, Pierre Thévenoud, calme-toi Bernard, et Areski Sugar, Sugar Free, le meilleur podcast, fin de séance. Puis je demande en deux la famille des créateurs de contenu sur YouTube, Nomanosni avec J'irai fumer chez vous, Léopold Lemarchand avec les courts-métrages sur sa chaîne, je joue dans la vidéo d'ailleurs, petit dîner entre amis. En trois, un chroniqueur qui s'est flatté, Paul de Saint-Sernin, et à l'inverse, en quatre, deux roasters suisses qui charrient savent vanner, Alexandre Kominek et Thomas Wiesel. Puis attention, on reste dans la grande famille des humoristes, mais je distingue trois nouvelles sous-familles. En cinq, les jeunes stand-uppers sincères qui parlent d'eux et osent le jeu, Louis Chappet et Nordine Ganso. En 6, les quarantenaires pudiques, susceptibles, hypersensibles, Yacine Bellous et Nicolas Bernot. Et en 7, les papas anglo-saxons décomplexés, Sébastien Marx et Paul Taylor. Enfin, hors famille, les outcasts fascinants, le philosophe Raphaël Antoven et aujourd'hui, Mickaël Mergui.
J'ai hésité à sortir de derrière les fagots les poèmes, je sais pas si t'es au courant, que j'avais écrits pour toi, Mickaël, quand j'avais 15, 16 et 17 ans. Et non, enfin, je vais te les épargner, a priori, hein, parce que je les ai relus récemment. Et ils sont pas terribles. Hein. Ils sont très gothiques, lourds, farinés, pas rigolos, pas légers, pas très bien écrits. Alors, avec le confinement, en fait, moi, j'ai vraiment le temps pour plus d'introspection que jamais. Et je me demande qui sont au final les mecs que je veux ken et comment tout ça a démarré. Mon goût pour les personnalités bien barrées. Et si c'était toi, Mickaël, qui avait initié tout ça? Mickaël était grand, maigre, tatoué. Il était fort, plus âgé que moi. Il me faisait peur et m'attirait incroyablement. Je me sentais belle, sexy et devenir femme avec lui. On était très timides en présence l'un de l'autre, on se parlait quasi pas de vive voix, on se voyait pour faire l'amour et ensuite on discutait des heures sur MSN, derrière nos ordinateurs. J'étais amoureuse de Mickaël et voulais l'épouser, car je sentais qu'il avait les épaules pour abattre mon père. J'ai un père très fort, très charismatique, très intelligent, fou et violent. Mon père s'est battu avec les flics en 68, il aime se battre. Et moi, je recherchais un peu ça, à 15 ans, de la testostérone intelligente. Un homme sensible qui tape. Donc le fait que tu sois surdoué et antifaf, que tu te battes le samedi soir à Châtelet avec des néo-nazis, bah, ça m'allait parfaitement. Aujourd'hui, on n'est pas mariés, mais ça fait 15 ans qu'on se connaît, et on ne s'est pas oublié. Merci Mickaël d'être mon invité pour cet avant-dernier épisode de la saison 1 de mon podcast « Les mecs que je veux ken ».
Bah, j'ignorais que tu étais attiré par... que tu avais peur de moi et que tu faisais le parallèle avec ton père et moi. C'est intéressant, c'est rigolo. Mais c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on se connaît et il y a eu des périodes, notamment récemment, de grands vides.
Ouais, mais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Ah ouais, au moins 10 ans.
C'est vrai qu'il y a toujours eu cette ambiguïté en moi entre une espèce de finesse et une espèce de brutalité que j'ai beaucoup subi parce que j'avais toujours eu l'impression d'être un petit peu entre deux eaux et finalement pas trop savoir qui je suis, parce que je suis quelqu'un de foncièrement... violent dans la mesure où j'encaisse la violence qui est sociale, qui est physique, et j'ai toujours eu cette envie de rendre coup pour coup. Mais d'un côté, dans un monde idéal, je suis un bisounours et j'aimerais faire de l'art, faire de la photo et que tout se passe bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette facilité à switcher de l'un à l'autre.
Mais l'un et l'autre, c'est pas contradictoire. À mon avis, si un jour tu fais de l'art, enfin, et de la photo, c'est avec ta violence, tu vois. Je pense que les gens qui écrivent, comme genre Virginie Despentes, elle écrit comme si elle donnait des coups, tu vois. C'est la violence, ça fait.
Bien
c'est,
sûr. C'est... Mais après, moi, je pense que justement, si je fais, enfin, ce que je fais en photo, ce que je fais en musique, je fais beaucoup de morceaux qui sont très ambiantes avec des nappes très diffuses, c'est justement pour une espèce de refuge en fait, où je montre des choses qui sont belles, qui moi m'apaisent. J'ai pas cette recherche de la violence dans ce que je fais d'un point de vue artistique, et c'est comme si justement le réel était trop violent et que j'essayais moi de me réfugier dans un espèce de cocon où je vais plus être sur le ressenti purement émotionnel. Contrairement à cette espèce d'agression physique que je vais ressentir quand je travaille ou quand je suis dehors et que je constate un petit peu l'état de notre société. Mais du coup, effectivement, il y a ces deux choses qui sont un petit peu, pour moi, que je vois pas contradictoires, mais que je vois opposées en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux mondes distincts et dans lesquels je vais évoluer et qui vont être un petit peu des refuges l'un à l'autre parce que trop protecteur, c'est un petit peu... C'est pas bon pour moi aussi.
Alors, j'ai fait un texte à trous, et si tu veux, tu peux compléter. Donc, le moment où il y a des pointillés, c'est pour retracer un peu notre histoire, ok ?
D'accord.
Alors, on s'est rencontrés au...
Théâtre.
Cours Florent.
À l'école de théâtre, voilà. Cours Florent.
Voilà, j'ai l'impression qu'on est dans un, tu sais, que j'ai moi-même organisé mon talk show love.
C'est en contre, c'était en quoi, en 2003, je crois. 2002-2003.
C'est ça. Dans les cours de notre prof s'appelait.
Aucune idée.
Tu te souviens
pas
son nom,
mais non, je me souviens plus.
Ah, c'est dommage que j'ai pas un buzzer négatif. Ouais, ça me ferait un point pour moi. C'était Lise Bélinck.
D'accord, bah même quand tu me le dis, je m'en souviens pas, tu vois, donc...
Putain !
Ouais.
Ah ouais, elle te kiffait grave ?
Bah, je m'en souviens pas non plus.
Mais non, bah ouais. Écoute, alors, je suis d'autant plus flattée que tu te souviennes de moi alors, quoi.
Ouais, tu vois, comme quoi.
Donc, j'avais 15 ans, et toi ?
Du coup, j'en avais 17.
C'est ça. Et j'étais en seconde, et toi ?
Alors, je sais pas, parce que j'ai redoublé. Je sais pas si j'étais en première.
T'étais
ou
en terminale.
J'étais en terminale. Ma première terminale. Très bien.
Et j'étais au lycée Montaigne, et toi ?
À Bergson, dans le 19e.
C'est moi qui t'ai approché en premier pour proposer une scène de théâtre.
Exact, c'est vrai.
Et est-ce que tu te rappelles, c'était quelle pièce de théâtre ?
Est-ce que c'était du Shakespeare ?
Non.
Putain.
Tu vas te souvenir d'autre chose que moi j'aurais oublié. Tu vas te souvenir d'autre chose. C'était la Locandiera de Goldoni.
Eh ben tu vois, je n'en avais pas de souvenir.
Et moi je jouais la Locandiera. Et toi, est-ce que tu te souviens de ton personnage ?
Je me souviens plus du tout.
Tu jouais le chevalier. Et à la fin de l'année, on a fait une autre scène ensemble. C'était dans Juste la fin du monde de la Garce.
Eh ben alors tu vois, tu m'as trouvé ça hyper bizarre. Parce que ouais. Je me suis toujours demandé, c'est horrible. Hein. Quand j'essaie de me souvenir de cette période, J'essaie de me demander si effectivement, quand j'étais au Conflans, j'avais fait des trucs de fin d'année et je m'en souvenais plus. Donc maintenant, tu viens de me dire qu'effectivement, j'avais fait un truc à la fin de l'année. Incroyable.
Ouais,
J'en avais aucun
enfin,
souvenir.
tu t'avais pas beaucoup travaillé, c'était surtout t'étais dans ma scène. Mais
C'était
cela dit,
terrible, ouais.
t'étais assez charismatique puisque t'étais au centre et moi je tournais autour de toi et c'est Suzanne qui parle à son frère qui n'a pas été là et c'était fort. Tu te souviens? C'était
Alors,
incroyable ce qu'on.
je me souviens plus de sensations que de choses un petit peu concrètes. Mais c'est vrai que, de toute façon, dans toute ma période cours Florent, j'ai toujours eu du mal. Mais je pense qu'en y repensant, c'était parce que j'avais une grande immaturité et que je comprenais pas ce que je lisais dans la mesure où j'arrivais pas à le ressentir. C'est-à-dire que je comprenais les mots, je comprenais les histoires, évidemment. Mais j'arrivais pas à ressentir cette puissance. Et du coup, j'arrivais pas à m'y investir. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça, j'ai pas, une des raisons pour lesquelles j'ai pas continué, c'est parce que c'est quelque chose dans laquelle j'arrivais pas à m'identifier, en fait. Et je pense que c'est très important. Donc, je lisais des textes qui me plaisaient, mais je lisais pas des textes qui me pulvérisaient, quoi. Et du coup,
Mais je suis d'accord que c'est peut-être lié à pas une immaturité, mais t'es certainement beaucoup plus in touch avec ta vulnérabilité, ton côté sensible aujourd'hui que tu l'étais à l'époque.
complètement. Et peut-être parce que je l'assume plus. Et peut-être parce que j'ai réussi à
Parce
travailler
que t'es un
dessus.
adulte, t'étais un
Et peut-être
adolescent.
aussi parce que j'ai 16 ans de plus, tu vois. C'est
Ouais,
vrai.
t'étais un ado à Bergson en plus. Enfin, c'était pas non plus le lieu pour les jeunes ados mecs d'ouvrir leur cœur et de. Enfin, j'en sais rien,
Bah
tu
après,
vois.
ça c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup dérangé parce que effectivement, c'est vrai quand t'es sur place, mais à l'école, tu y es quoi, 6-7 heures par jour et t'as tout le reste où tu peux vivre ta sensibilité à ta guise. Mais voilà, j'ai. De toute façon, il y a beaucoup de choses que j'ai su apprécier et su ressentir sur le tard.
Ouais.
Énormément de choses. Et c'est vrai que j'ai un côté très immature par rapport à ça. Voilà, il y a énormément de choses que je découvre, que je redécouvre sur le tard et que je me dis. Putain, finalement, c'était bien.
Bah, je pense que notre histoire, en effet, moi je l'ai vécue au moment où elle nous arrivait, et peut-être que toi il y a eu un petit décalage son, un petit décalage audio, comme, enfin, il y a des choses que peut-être, je pense pas que au moment où on a eu notre histoire, tu te considérais amoureux de moi. Et c'est des années après que tu as fini par me dire si, si, je t'aimais.
Ben oui, parce que. Déjà, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. T'es la première personne avec qui j'ai eu une relation, une vraie entre guillemets relation. C'est-à-dire que j'ai entretenu quelque chose avec quelqu'un. C'était la première fois de ma vie et effectivement, c'est quelque chose que j'ai réussi à apprivoiser, à accepter très très longtemps après. Après, c'est Je me dis peut-être que ça vient des histoires personnelles, parce qu'on est un petit peu le fruit de notre passé, de notre histoire, de notre éducation et de ce qu'on a vécu. Mais c'est vrai que j'ai réussi à me poser, à caler là-dessus très longtemps après. Ouais. Mais effectivement, je le redis, j'étais amoureux, toi. Avec le recul, quand j'y pense. Et je pense que même j'étais amoureux quand même, mais c'est vrai que je te le montrais pas et que j'arrivais pas moi-même à saisir ce qui se passait en fait.
Ah, tu me le montrais, mais tu me le disais pas. Et tu me le montrais parce que quand on faisait l'amour, c'était très tendre. Et parce qu'on parlait pendant des heures sur Internet. Donc, forcément, je ressentais de l'intérêt. Je pense que c'est, mine de rien, c'est le temps que. Le voir quelqu'un passer du temps à lui parler, c'est les preuves qui font que tu vois. Si tu m'avais juste pas calculé, je me serais dit, ah, le gars me kiffe pas, on va pas s'acharner.
Bah
Tu
ouais, et
vois.
puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, par contre, parler. Ce que j'aime bien, en fait, quand tu discutes avec quelqu'un, c'est que c'est des choses qui s'est créé petit à petit. Et au final, quand tu parles avec quelqu'un, tu vas, vu que quand il y a une résonance et que c'est quelque chose qui match et qui fonctionne, ta pensée, elle va évoluer en même temps que tu parles. Et finalement, tu vas en tirer des conclusions après, que t'aurais même pas soupçonné quand t'as commencé à parler. C'est-à-dire que tu t'enfonces dans ta propre réflexion et en fait tu prends la personne par la main et vous vous emmenez tous les deux dans vos directions et tout s'entrecroise et ça fait quelque chose qui est magique. Moi j'adore parler, j'adore réfléchir avec des gens, j'adore discuter parce que c'est des choses qui te font vraiment, vraiment beaucoup avancer, même dans ta propre réflexion personnelle. Moi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des gens et à la fin me dire que je savais même pas que c'était le chemin que j'empruntais quand je discutais au début, quoi. Et je trouve ça super intéressant.
J'étais tellement amoureuse de toi, je passais des heures devant mon écran et je t'envoyais un message. Et je sais pas si c'est parce que tu jouais aux jeux vidéo en même temps ou que tu discutais avec d'autres gens, mais parfois tu mettais 20 minutes à répondre. Je me souviens que j'attendais parfois, ça dépendait. Parfois tu répondais tout de suite, puis parfois tu mettais 20 minutes. Et moi j'essayais de travailler et en fait j'avais une alerte, j'avais le bruit. Et donc dès que tu répondais, bah je répondais derrière. Puis ensuite je réattendais, je faisais d'autres trucs. Et je
Alors,
réattendais que tu répondes.
il y avait peut-être une différence d'attente, effectivement, par
Ah
rapport
ouais,
au
clairement,
message,
ouais. Ah
mais
ouais.
c'est vrai que je faisais sûrement plein d'autres trucs à côté. J'ai rarement eu, c'est vrai, dans ces moments-là, une attention 100% focalisée sur
Mais
la discussion.
c'est pas des ce que je c'est pas du tout des reproches enfin je veux dire c'était je suis pas en train de comment dire il y a pas tu peux pas reprocher comment dire quelque chose de pas tout à fait réciproque, il y a pas de mal et de bien, c'est
Bah,
quelque chose qui a
je
lieu,
suis entièrement
tu
d'accord,
vois.
parce que sinon, moi, j'aurais pu te dire, t'étais quand même beaucoup trop dans l'attente. J'imagine quand même que tu guettais les
Grave.
messages qui t'attendaient qu'il y ait une notification qui apparaisse. Et du coup, wow, c'est beaucoup
Ben
de pression pour moi.
j'étais obsédée, j'étais folle amoureuse. Notre toute première répète, c'est là que ça a commencé, notre histoire. Et apparemment, sache un truc que moi j'avais oublié et que toi tu m'as rappelé, c'est que en gros, c'est moi qui suis venue te parler sur MSN en mode est-ce que tu veux être mon plan cul, quoi. C'est ça que.
Alors, en gros,
Alors que j'étais vierge, hein.
tu m'avais proposé de venir effectivement répéter une scène chez toi, en me faisant très bien comprendre qu'on ne répéterait pas la scène.
Ah ouais, putain. Tu te rends compte, 15 ans,
Ouais.
c'est fou ça.
Tu m'as fait,
J'étais quand
écoute,
même.
je mets des pizzas à chauffer et tu viens et on va répéter. Et finalement, bah effectivement, je suis venu chez toi et on n'a pas du tout répété. Hein.
C'est ça.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et ça a été l'une des rares fois où t'es venu chez moi, mais ça n'a pas été la seule.
Ça n'a pas été la seule. Moi, j'en ai une mémorable en tête, mais
Oui, quand t'étais venu prendre un bain.
exactement. Alors cette fois-là, c'est la fois la plus mémorable, mais je crois une des fois les plus mémorables de toute ma vie en fait, parce que c'était un moment génial. Franchement, c'était un moment de partage qui est ouf et c'est un moment de partage dont je me souviens encore, et je me souviens que c'était un moment très 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 fort. Et il y avait une espèce d'innocence autour de tout ça. Et il y avait énormément de tendresse, il y avait de l'amour, il y avait de l'innocence, il y avait de la découverte de l'autre, il y avait de la découverte tout court. Et puis il y avait ta mère.
C'est clair, putain. Mais c'est ouf. Parfois, on se parlait pas du tout pendant le cours de théâtre et on se revoyait et on
C'est
baisait,
vrai,
mais
d'ailleurs, je
on
sais
se
pas
parlait.
pourquoi, c'est vrai qu'au théâtre, limite, on était dans l'évitement, je sais pas pourquoi.
Bah, on était hyper timide. Moi, tu me
C'est
faisais peur,
possible.
sincèrement.
Mais
J'étais.
alors, d'ailleurs, il faut que tu m'en parles de ça, parce que dans ton poème, j'ai pas compris l'aspect, la finesse du fait que tu dises que tu avais peur. Quel genre de peur?
Non, mais une peur positive. Je pense que c'est très complexe, mais c'est l'un aussi des l'une des bizarreries de l'hétérosexualité. C'est que de toute façon, quand t'es face à un homme, tu peux. Il y a toujours dans ton cerveau de femme, quand même, tu sais que s'il veut, il peut te tuer.
Très bien.
Mais bizarrement, ça peut aussi être quelque chose d'excitant. Je crois que c'est ça, hein, l'hétérosexualité, selon moi.
Donc, en fait, d'accord. Non, tu définis l'hétérosexualité quant au fait que tu es avec une personne qui a la capacité de te tuer, mais...
mais qui un peut, peu.
Ouais, mais attends, tu sais que tu peux très bien me tuer avec un couteau quand je dors.
Certes, oui, mais en fait, je pense qu'il y a, en tout cas de mon expérience, j'ai toujours eu un frisson. Je pense, je sais pas si la peur c'est le bon terme, mais pour moi c'est lié aussi à l'érotisme, tu vois.
Ça, je suis d'accord avec toi, et je vois ce que tu dis, et je pense qu'il faut faire justement le distinguo entre la peur et la crainte, parce que pour moi, la crainte, c'est quelque chose qui est forcément négatif.
Par contre, tu viens juste de dire distinguo, hein. Je tiens à
ce que ouais, distinguo, moi, j'assume totalement. Moi, il n'y a aucun problème. Moi, je suis un boomer assumé.
Et ben, alors, on va dire distinguo, on va inclure distinguo dans cette discussion.
Et c'est vrai que la crainte, pour moi, elle est forcément péjorative, parce que la crainte, c'est une peur qui est viscérale, et c'est presque une peur pour sa vie, en fait. Et effectivement, la peur, elle peut être excitante, c'est pour ça que...
Ouais, voilà.
C'est pour ça que on aime regarder des films d'horreur, c'est pour ça que...
Ouais.
Pour moi, c'est ce même genre de peur, c'est une peur, effectivement, oui, je vois ce que tu veux dire.
Et tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai qu'il faut vraiment la séparer de la crainte qui, elle, est vraiment totalement nocive, ouais.
Non, mais c'est juste que pour moi, t'étais un homme, quoi. T'étais pas une copine. T'étais pas un potounet. T'étais, je veux dire, et je pense que ça participe aussi au désir sexuel, quoi. Puis après, je te signale que tu t'habillais en noir, que tu mettais des gants de boxe, là, que t'avais des chaussures cloutées, que t'avais tout le temps plus ou moins la gaz lacrymo sur toi, etc. Et concrètement, c'est sûr que c'était pas trop le genre de gars que j'avais au lycée Montaigne en seconde, ni au collège, clairement, c'était
une, ouais, tu vois, il y avait... c'est pile la période où vraiment, effectivement, j'ai commencé à m'engager politiquement. Et que j'ai commencé à me découvrir vraiment des affinités avec une gauche qui était très très radicale et sans concession. Et effectivement, c'est vraiment la période où j'ai beaucoup milité. Ouais.
Mais t'étais fou. Mais moi, c'est ce qui me plaisait. Mais t'étais quand même complètement barjo. Tu te souviens ou pas? Une fois, j'étais chez toi. C'était l'une des rares fois, il me semble, où j'étais chez toi. Il y avait Ferdinand. Et tu m'avais fait écouter de la musique faf pour me faire kiffer. Et moi, j'étais là genre, oh ouais, genre, c'est bien. Alors que c'était pas trop ma cam, mais genre, j'étais tellement love de toi. J'étais là genre, ouais, c'est cool. Et ensuite, t'avais arrêté la musique et t'avais rigolé parce qu'en fait, tu m'avais dit, ah ben, c'est de la musique de nazi. Tu te souviens pas?
Je m'en souviens pas, mais c'est tout à fait le genre de choses que j'ai effectivement, je peux faire, ouais.
À ton avis, quelles ont été les différentes stratégies que j'ai utilisées pour t'inclure dans ma vie à cette époque?
Alors, j'en ai une qui me vient beaucoup, ouais. C'est le harcèlement.
Ah ouais?
Une technique de harcèlement. Parce que j'ai des souvenirs de... Enfin, de harcèlement gentil, hein, mais j'ai des souvenirs de moi qui parfois ne voulait plus te parler et parce que c'était peut-être trop. Et d'un coup, d'entendre dans mon salon le téléphone qui sonnait et ma sœur répondre...
C'est ça.
Et ma sœur répondre que... en disant « Ah oui, je vais voir s'il est là. » Et en fait, tu étais devenu coutumier. Ouais, c'était une habitude que tu avais pris de téléphoner chez moi. Et puis après, même de faire ami-ami avec ma sœur. Et de passer par ma sœur pour réussir à me parler. Donc, quand je dis harcèlement, ouais. C'était pas quelque chose qui m'impactait. Si, si. Mais c'était un espèce de « tous les moyens sont bons », tu vois. Et c'est quelque chose qui te définit assez bien quand même. Tous les moyens sont bons. C'est genre, je veux ça et j'y vais, quoi.
Ouais, c'est ouf. Mais oui, en effet, j'ai la première à laquelle je pense, c'est que je suis devenue amie avec ton meilleur ami.
D'accord.
Ferdinand. La deuxième stratégie que j'ai employée, ça a été de faire en sorte que ton meilleur ami sorte avec ma meilleure amie, Flore.
D'accord.
Et la troisième stratégie, en effet, ça a été d'entrer en contact avec ta sœur.
Ouais, voilà. Donc, en fait, t'avais mis en place une espèce de réseau, c'est ça?
Une espèce de réseau et comme ça. Et ça a plus ou moins bien marché, hein.
C'est vrai.
Et Mais en tout cas, alors attends, c'est ça. Et ensuite, bon, alors en fait, voilà, si, faut savoir que donc t'as été le premier mec avec qui j'ai couché. Et donc au début, on s'est vu. Et moi, je sais pas pourquoi je t'ai proposé. En fait, je sais pas pourquoi on s'est dit, on avait formulé le fait que notre histoire était une histoire juste de plan cul ou j'en sais rien. Je pense que c'est parce que je sais pas.
Je pense
pas
que ça avait. Je pense que ça avait un côté un peu. Un peu même très excitant en fait parce que à chaque fois on se donnait rendez-vous vers chez toi mais je sais pas si tu te souviens à l'époque j'avais une clé PTT une clé de la poste
et
on a écumé les halls d'immeubles de tout le quartier et c'est vrai qu'il y avait un côté on se parle beaucoup à côté et quand on se voit c'est
on
un truc
pas.
De fou c'est juste de la passion quoi. Et
ouais.
Je pense quelque part, on avait tous les deux envie de ça et ça nous rendait ouf, quoi. Genre le fait de se voir, de prendre la clé PTT et d'aller dans n'importe quel hall d'immeuble au hasard, de l'ouvrir, de passer un moment ouf et après de se casser, tu vois. C'était vraiment des moments sporadiques comme ça. Et c'était vraiment foudroyant, quoi. Ça arrivait et puis ça repartait et c'était génial. Moi, franchement, c'est des souvenirs totalement incroyables, quoi.
Pareil pour moi et puis ça a été assez marquant après parce que finalement en fait je te remercie aussi d'avoir été mon premier mec et de m'avoir à ce point un peu initié au plaisir parce que après par la suite je suis tombée sur des gars qui je sais pas qui étaient moins généreux et qui étaient moins dans le fait que ça devait avoir lieu à deux et que ça devait être quelque chose de fun et complice. Et que ça devait être un jeu, tu vois. Il y a juste des mecs, tu vois.
C'est juste parce qu'en fait, moi, j'arrive pas à prendre de plaisir avec quelqu'un si la personne ne prend pas de plaisir. C'est impossible. J'y arrive pas. Parce que je suis vachement réceptif à l'autre, en fait. Et à ses réactions. C'est une espèce de danse, quoi. C'est une espèce d'osmose qui se crée avec la personne. Et c'est vrai que j'arrive vraiment à tirer aucun plaisir. De passer un moment avec quelqu'un avec qui ça se passe de manière totalement plate pour elle quoi c'est je peux pas s'il y a pas de réciprocité c'est impossible je peux pas et du coup et en plus je prends énormément de plaisir à voir la personne réagir face à tout ce que tu peux faire pour lui donner du plaisir je pense que c'est hyper important et je m'imagine vraiment pas prendre du plaisir seul avec quelqu'un, c'est inenvisageable en fait.
Alors, à un moment, on faisait les halls d'immeubles et quand même, il y a un moment où c'est un peu embourgeoisé et on se donnait quand même assez régulièrement rendez-vous au bureau de mon père. Moi, j'avais la clé du bureau de mon père et on commençait toujours peut-être parfois en mettant un film, puis rapidement, bon.
Ouais, et puis c'était. En fait, ce qui était génial, c'est que à nos âges, d'avoir un endroit où on peut se retrouver.
Seul.
C'est complètement fou. C'est-à-dire qu'à nos âges, on se retrouve chez les parents, s'enferme à clé. Y a pas, ça n'existe pas à 17, 18 ans, 16 ans, 19 ans, d'avoir un lieu où tu peux te retrouver.
Une totale intimité,
en fait.
Comme
et
ça.
Une totale intimité. Je me souviens parfaitement de la configuration. En plus, c'était dans une espèce de sous-sol. Donc du coup, c'était vraiment notre
dans
lieu
noir.
Secret à nous, où on se retrouvait... Et c'était des moments totalement fous, en fait. C'était incroyable comme
complètement.
Moment.
Complètement.
Parce que c'était moi, pour moi, quand on entrait dans le bureau de ton père, c'était tu fermais la porte et le monde, il n'existait plus, en fait. C'était une espèce de sphère. C'était presque onirique, en fait. C'était ce moment qui existait. Et c'était vraiment un peu le temps suspendu, quoi. Et quand on ressortait, c'est vrai que c'était assez étonnant de voir que le monde avait continué de vivre et d'exister à côté. Parce que c'était vraiment des bulles suspendues et figées dans le temps. Ouais, celui, il est emblématique de ma vie et de ma construction, hein, clairement.
Mais tu te souviens, on s'était disputé, on avait décidé de plus se revoir. C'était moi qui avais pété les plombs parce qu'en fait, j'avais honte d'être vierge et de ne pas te l'avoir dit. Tu te souviens pas de ça?
Non, j'ai plus trop de souvenirs de ça, non.
Je crois que tu m'avais écrit de façon genre t'es qu'une baiseuse du je sais pas quoi ou un truc.
J'étais méchant comme ça moi.
Ah ouais. Hein. Non mais cela dit je devais pas te prendre.
Je pense
aussi,
que tu m'as poussé à bout aussi ouais parce que.
Oui.
C'est quelque chose que tu arrivais bien à faire aussi c'est de pousser dans les retranchements tu vois et Mais je sais que tu faisais ça, cette violence, tu l'as. T'étais dans cette violence pour provoquer des réactions.
Ouais.
Toute la violence que t'as utilisée, je sais qu'il y a des fois où t'appelais chez moi et que c'est ma sœur qui répondait, où ça me rendait vraiment mais fou parce que tu faisais ça genre 10 fois dans la soirée, tu vois, mais que c'était pour provoquer une réaction en fait. Et même si la réaction elle était négative, il y avait une réaction parce que t'as toujours eu cette espèce de crainte, justement, on peut parler de crainte, de que tout soit coupé en fait. Et le silence, c'est ce que tu subissais et c'est ce que tu vivais le moins bien. Et tu préférais quelqu'un d'énervé qui te parle que quelqu'un qui te parle pas du tout et qui est calme dans son coin mais qui coupe les ponts et qui ne te parle pas. Tu préférais quelqu'un de violent en face de toi qui pouvait être très très incisif avec les mots mais que tu avais provoqué. Mais il y avait une réaction, et c'est ça que tu voulais, en fait.
Bah après, je pense qu'on ne peut pas vivre des moments aussi intenses sans payer derrière. Je crois que, tu vois, c'est aussi que c'était tellement fort tout d'un coup ce qu'on vivait que forcément, ça, enfin, c'était impossible que ça parte pas en sucette ou que, je veux dire, tu peux pas vivre ça sans. Je me
Bien
souviens
sûr.
d'une fois où j'avais voulu venir te voir et où toi, tu voulais pas sortir. Et où j'étais venue jusqu'à en bas de chez toi et il pleuvait et j'avais attendu et t'étais pas venue.
Alors ça c'est très possible, mais il y a un truc que je déteste, mais vraiment que je déteste, c'est que qu'on s'impose dans ma bulle en fait. C'est quelque chose parce que c'est quelque chose en fait que je supporte très mal. Pour moi c'est hyper violent. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire et c'est quelque chose que j'ai vraiment épousé très très jeune, même quand j'étais petit. Et c'est plus moi qui prends la décision d'ouvrir un petit peu ma bulle. Mais le fait qu'on vienne s'imposer à moi dans ma bulle, c'est quelque chose que je vis de manière extrêmement violente. Mais littéralement, je le vis très mal en fait. Et du coup, effectivement, je le vis d'une telle violence que la réponse, elle est que je coupe tout et que je peux plus du tout, sur le moment, avoir de contact avec la personne, parce que je le vis de manière très très violente.
Ouais. Bah oui, je voulais te forcer avec mon petit copain et je voulais qu'on aille au cinéma et qu'on aille au restaurant. Mais à un moment, on a eu un semblant de couple. Quand même plus concret, ça a été à partir du moment où j'ai rencontré Ferdinand, où j'ai rencontré un peu votre bande d'amis, où on est allé au Butte-Chaumont, où j'ai commencé un peu à être passé des soirées.
Ouais, parce que.
Et là, on se parlait, c'était à la fin, mais c'était peut-être la deuxième année de ou la fin de la première année,
C'est
c'était.
ça, parce que j'ai ce côté solitaire où j'aime pas du tout qu'on s'introduise de force dans ma bulle. Mais paradoxalement, j'ai besoin un peu parfois qu'on me pousse un petit peu et que sinon je reste comme ça sur mon quotidien et j'ai souvent eu besoin qu'on m'arrache un petit peu. Et donc le fait qu'effectivement on fréquente le même cercle et qu'on voit les mêmes personnes, c'est comme plein de fois, même maintenant, même actuellement, j'ai beaucoup de mal à sortir de ma bulle. J'ai beaucoup de mal à, par exemple, parce que j'habite en banlieue, à prendre le RER pour aller sur Paris. C'est vraiment un calvaire. Mais une fois que j'y suis, par contre, je suis épanoui. Et j'ai toujours eu besoin comme ça de me forcer un petit peu. Et c'est vrai qu'en faisant ça, t'avais un petit peu forcé les choses, mais de manière cette fois positive, parce que les choses, elles étaient pas violentes. C'était plus des suggestions que de rentrer en force. Et c'est vrai que c'était une espèce d'équilibre. Mais après, je sais pas si on aurait fait un couple traditionnel, entre guillemets, qui aurait été viable. Ça, je me suis souvent demandé.
Si, moi je pense que c'est dommage quand même. Mais moi j'avais vraiment envie de te sauver, de t'aider, de que tu passes ton bac. Je me souviens, je
C'est
t'avais
vrai que
acheté des
t'avais
bouquins, tu vois.
toujours eu cette envie que, parce que j'étais clairement en échec scolaire, parce que le système scolaire n'était vraiment pas adapté à ma façon de progresser et à ma façon d'être. Et c'est vrai que par contre, tu as toujours eu cette espèce de volonté de me tirer vers le haut et de m'encourager. Et ça, je m'en souviens très bien et ça m'a motivé pour plein de trucs. C'est vrai que tu as toujours eu cette envie et cette hargne et cette rage de me tirer vers le haut et de m'élever. Ouais.
Et une fois, on s'était câliné en plein jour à la sortie du métro Bourse. Parce que le bureau de mon père, il y avait des gens dedans.
Exact, je m'en souviens.
Et il y avait une dame qui bossait avec mon père, que j'avais croisée, j'avais eu honte parce que j'étais sur tes genoux.
C'est ça, et soit dit en passant, on attendait qu'il sorte à l'époque.
Ouais, on attendait qu'il sorte. On attendait que... Enfin, en vrai, on n'était pas dans le même état d'esprit parce que toi, t'attendais que le bureau se libère. Et moi, je savourais le fait d'être à l'extérieur avec toi.
Non, mais c'est vrai que c'était un chouette moment, ouais. C'était un chouette moment et c'était une des rares fois où on avait vraiment beaucoup parlé. Quoique, quand même, quand on allait au bureau de ton père, il y avait forcément...
Non, on parlait pas.
Si, il y avait... Si, arrête. Il y avait quand même... si, on parlait.
Quelques mots et je...
Non,
à la fin, oui, à la fin.
On passait quand même des moments où on était un peu lovés l'un contre l'autre, on se racontait un petit peu, on refaisait un petit peu le monde, et c'est vrai qu'il y a eu une petite évolution quand même avec le début, parce que on a toujours réussi à conserver cette espèce de passion vraiment foudroyante, mais à la fin, on s'est quand même apprivoisé. Et on a réussi quand même à avoir des moments de partage où on refaisait un petit peu le monde, où on parlait, et c'était tout aussi... En fait, c'était rassurant de se rendre compte qu'il y avait quelqu'un d'aussi taré sur Terre que soi-même.
Ouais.
Et c'était fou, vraiment, c'était assez grisant.
Tu te souviens, une fois, on s'est vu chez ma grand-mère, en juillet?
C'était épique, c'était exceptionnel.
Et j'avais acheté des bonbons.
Ouais.
Et j'avais mis du réglisse partout sur ton corps.
Ouais.
Tu te souviens?
Là, je me souviens. C'était, ouais. c'était assez insolite parce que la maison de ta grand-mère, du souvenir que j'en avais, que j'en ai, c'était vraiment une maison où il y avait vraiment une ambiance vraiment rustique, en fait. j'avais l'impression de rentrer
dans une
maison
de vieille.
Je crois que c'était dans un beau quartier, c'était dans le 16e ou un truc comme ça.
C'était dans le 17e, dans à Wagram.
Dans le 17e, ouais. Et c'était vraiment un appartement. Il y avait peu de luminosité, c'était vraiment
absolument.
Un appartement presque abandonné, en fait. Et j'avais trouvé le cadre, mais ouf. Genre, vraiment, c'était...
Il y a vraiment un côté Twin Peaks de nous.
C'est ça, c'était vraiment... C'était un appartement qui était vraiment lynchien. Mais vraiment, c'était incroyable. Il y avait une ambiance dans cet appartement qui était ouf. Et c'est vrai que le moment qu'on a passé, c'est un de mes meilleurs souvenirs.
Mais parce qu'on s'était dit que ça serait la dernière fois. Et donc, on vivait aussi un peu ça...
Ouais, c'est vrai, il y avait de ça, et il y avait une ambiance qui était très particulière, qui était extra... Ouais, c'était très fort, je me souviens. Le ressenti que j'ai sur ce moment, c'était vraiment un moment fort.
Ah ouais, bah, c'était totalement passionnel. Moi, je me souviens, on faisait l'amour, j'avais toujours un peu envie de pleurer. Enfin, c'était fou, quoi.
Ouais, et je pense que c'est ça qui nous a définis. C'est... Il n'y a jamais eu une espèce de baisse de régime où d'un coup, c'était... tout le temps très haut, et ça s'est stoppé net. C'est pas une espèce de bougie qui s'est éteint. Il n'y a pas eu comme ça quelque chose qui s'est fané. Tu vois, ça a toujours été super puissant, et c'est ça qui est ouf, quoi. C'est incroyable.
Bah, c'est parce qu'on n'a pas vécu ensemble et qu'on se voyait de façon espacée et que
même... Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que je me suis toujours refusé. J'ai jamais vécu avec quelqu'un. C'est quelque chose que... Moi, pour moi, vivre avec quelqu'un, c'est pas signer la mort d'un couple, mais c'est signer la mort de quelque chose.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est voir la personne tout le temps, instaurer un quotidien avec la personne, c'est quelque chose qui... C'est même pas que ça me fait peur, c'est que j'en ai pas envie, en fait, et j'en éprouve pas le besoin.
Et tu veux pas des enfants ?
Je me suis longtemps posé la question et je me la pose encore, mais dans l'absolu, non. Non, parce que déjà, d'un point de vue totalement rationnel, je me dis que c'est une sacrée sale ambiance dans laquelle on dans laquelle on pourrait apposer un enfant de vivre dans le monde dans lequel on vit, ce serait un peu compliqué, ouais.
Ah
En fait, je me dis le plaisir égoïste d'avoir un enfant face à ce qu'on lui inflige et sans qu'il ne puisse avoir le choix, c'est un petit peu violent quand même.
ouais. Moi, j'ai très envie d'avoir des enfants.
Bah ouais, j'ai cru comprendre en écoutant tes podcasts
Et une
effectivement
fois, on se...
que tu te sens même quasiment prête à avoir des enfants et
Ouais.
que mais après, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants pour les bonnes raisons? Enfin, pourquoi tu as envie? Est-ce que tu te demandes pourquoi? Est-ce que parce que tu as envie de transmettre quelque chose? Est-ce que c'est parce que tu as envie de pas mourir en disant que tu
Non,
laisses
pour
rien
les
sur
mauvaises
terre?
raisons. Non, pour les mauvais. J'ai envie d'avoir des enfants parce que je pense que c'est. Je pense pas que la solution à l'écologie ce soit d'arrêter faire moins d'enfants, certes, mais ne plus se reproduire. Non, je pense pas que ce soit la réponse au réchauffement climatique. Et ensuite, je pense que c'est nos enfants plus intelligents et plus conscients qui trouveront des solutions. Et ensuite, le désir d'enfanter, je pense pas, j'ai bien mal, j'ai du mal à raisonner comme ça. J'ai du mal à me dire, on ne fait pas d'enfants parce qu'on est généreux et qu'on pense à la planète. Je pense que si on fait pas d'enfants, c'est pour des raisons plus psychologiques et profondes ou de hasard et de rencontres. Et
Ça, je suis
si, je
d'accord
pense pas
aussi, ouais.
que, tu vois, ensuite, si on en fait, tout est égoïste, mais je veux dire, aimer, c'est égoïste. Enfin, je veux dire, même, tu vois, il y a,
Mais est-ce que tu te ressens le besoin de léguer et de transmettre?
Ouais,
Ouais.
profondément, ouais. Vraiment. Puis je trouve ça drôle et amusant et j'ai envie de. J'aime bien le cerveau et la façon de penser, de parler, de créer des enfants et ça m'amuserait
Ça
de
t'amuserait.
jouer. Ça m'amuserait d'apprendre de
Ouais.
mon enfant. Ça m'amuserait de parler avec lui et de me dire, ah putain, il
Ah
a
oui, après, je
raison.
pense qu'effectivement, un enfant, c'est une très bonne psychothérapie. Hein. C'est clair que mais après, il y a aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur aussi et qui m'a un petit peu freiné par rapport au fait d'avoir des enfants. C'est la peur de transmettre des choses qui le conditionneraient de manière totalement destructrice, en fait. J'ai trop peur d'être destructeur face à mes propres enfants. Je pense pas que je sois assez équilibré et assez mature. Et je pense que j'ai trop de blessures et trop de choses trop d'instabilité quelque part pour pouvoir transmettre quelque chose d'assez sain à un enfant pour qu'il se développe normalement.
Bah oui, mais c'est pour moi ce qui est malsain, c'est le non-dit et le refoulement. Mais ensuite, tu vois, je pense que toi et moi, on a eu des parents qui étaient très fragiles, qui avaient des comportements et tu vois, on a eu des
Ah
parents.
oui.
Tu vois, ma mère, elle manquait énormément de confiance en elle. Elle n'avait pas suffisamment reçu d'amour. Et je pense que clairement, elle attendait beaucoup de moi que je lui en donne. Et je lui en ai beaucoup donné, elle m'en a beaucoup donné. Enfin, il n'y a pas de... Et je sais pas si c'est sain ou malsain. Je sais pas si tu peux franchement faire des enfants de manière désintéressée. Non. Moi, je fais des enfants pour qu'ils m'aiment, pour qu'on s'aime, pour que ce soit extraordinaire, pour qu'ils soient intelligents, pour qu'ils soient brillants, pour qu'ils me surprennent, pour qu'ils me détestent. Enfin, tu vois, je vais pas faire des enfants et me dire, ah bah, deviens un gros connard raciste et puis ne m'appelle
Ouais, mais du
jamais.
coup, est-ce
C'est
que tu
pour ça
vas
que j'ai eu
pas,
des enfants.
est-ce que tu vas pas trop en attendre d'eux, justement? Tu attends, là, tout ce que tu viens d'énumérer, c'est beaucoup. Tu veux qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, peut-être que tu vas les surcharger un petit peu, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue de tes attentes. Et t'en attends tellement que peut-être que tu seras éternelle
Non mais
insatisfaite par rapport à tes enfants
je m'attends à ce que mes enfants lisent etc. Mais après j'attends pas de mes enfants ce que j'attends c'est quelque chose par rapport à moi-même. C'est ça qui est le plus fort, c'est ça qui guide ma vie. C'est moi, c'est ma mon accomplissement artistique et c'est ma vie d'actrice et c'est ma vie de d'auteur et c'est ma vie de stand-uppeuse et c'est tout ce que c'est ça qui pour moi est mon objectif et d'ailleurs mais je voudrais jamais que mes enfants se mettent en travers de ça. Faudrait que tu vois, je veux dire j'aimerais pas plus mes enfants ils s'adapteront à je veux dire. Donc en fait et ensuite eux oui bah si qu'ils s'éclatent et qu'ils fassent leur truc et qu'ils trouvent leur passion et C'est juste que ce que je souhaiterais, c'est qu'ils aient du plaisir. Après, moi, j'ai juste une envie, c'est d'avoir l'exigence de la joie. Voilà. L'exigence de la joie et que si j'ai des enfants, je veux qu'ils aient des moments de rêverie, des moments de bonheur, des moments de... Je pense pas que je serais une mère qui... Enfin, bien sûr, les devoirs, etc., c'est important, mais pour moi, c'est plus important qu'ils blaguent, en fait. J'ai vraiment envie que, tu vois...
Qu'ils s'épanouissent à travers un autre prisme que le prisme scolaire et de les cristalliser autour de choses qui sont plus épanouissantes. Mais c'est vrai que c'est... Je pense que quand t'es parent, t'es dans une recherche d'épanouissement personnel, comme tu dis. Et qu'un enfant, c'est complètement un catalyseur de tout ça, et c'est une espèce d'élévation. Et que si t'as pas d'enfant, tu passes quand même à côté d'une espèce de chemin de vie qui fait que tu loupes effectivement une élévation certaine par rapport ne serait-ce que qu'à une quête personnelle, ouais, complètement.
Tu vois ? Donc en fait, tu veux aussi des enfants ? On va avoir des enfants, ok. Ah. Le truc trop flippant. Et alors, toujours dans mon quiz de « Te souviens-tu ?», une fois, on s'était vu dans la salle de sport de ton gardien, à Manon.
Exact.
C'est ouf. Et figure-toi que c'était... Je ne sais pas si on avait déjà fait l'amour ou pas à ce moment-là, ou si on explorait encore les à côté.
Je sais pas non plus.
Mais ce que je sais, c'est que c'était... Enfin, je suis désolée d'être crue, mais donc c'est avec toi pour la première fois donc, que j'ai découvert la fellation. Enfin, que j'ai découvert comment faire une fellation, hein, pas en recevoir une, a priori. Mais par contre, c'est toi, je me souviens, qui a insisté pour me faire un cuni. Je me souviens très bien de cette fois-ci. Et que, en fait, moi, j'ai commencé à me masturber très très tard. Enfin, genre vers 17 ans. À la fin de notre... Pendant toute notre histoire, je m'étais encore jamais masturbée. Et donc... Et puis en plus, je pense que mine de rien, notre génération, il n'y avait pas Instagram, on était quand même vachement moins informés sur le plaisir et tout ça.
On n'avait même pas de smartphone tout court. Tu vois.
On n'avait pas de smartphone, pas d'application, pas de...
C'est ça.
Donc en fait, donc moi, je savais... L'orgasme, bon, je... Et je pense que... En effet, à chaque fois que je sentais un orgasme venir quand tu me faisais un cuni, j'avais peur du truc. Je disais, genre, ah ! Et en fait, ça me faisait peur. Et je me disais, ah bah non, il faut arrêter. Et tu m'avais dit, bah non, et non, il faut dépasser ça, il faut aller jusqu'au bout. Et je sais pas si on y était arrivé, mais t'avais été d'une patience extraordinaire parce que ça.
Mais encore une fois, c'est par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que j'arrive pas à concevoir. En fait, c'est même pas une question de principe. C'est une question que j'y arrive pas. Je veux pas concevoir.
Peut-être aussi que ça t'excitait aussi.
Ah, mais évidemment. Mais bien sûr.
Ouais.
Évidemment.
Ouais.
Voir la personne prendre du plaisir, c'est pour moi 50% du plaisir, voire plus. C'est vraiment quelque chose qui est. C'est un catalyseur, quoi, de sensations. Parce que c'est une résonance, en fait. C'est deux personnes. Sinon, bah, tu vas dans ton coin et tu te branles, quoi. Il n'y a pas... Pour moi, il faut vraiment une résonance. Sinon, ça n'a pas d'intérêt.
Ouais. Et je me souviens, t'as été le premier mec de toute ma vie à me dire « Ah, mais regarde, tu mouilles, t'es excité. » Et je t'ai dit « Ah, bah, ça doit être ça, tu vois. » Et ça, c'est extraordinaire parce que, tu sais, mine de rien, j'ai eu de la chance d'avoir un mec qui m'a dépucelé et qui m'a fait mouiller, en fait. Parce que c'est pas si courant que ça, le nombre de copines qui ont eu mal et qui ont accepté un peu d'avoir mal avec leurs copains parce que ni lui ni elle ne savaient, tu vois.
C'est surtout, je pense que on avait vraiment une espèce de... Il y a quelque chose qui est très important, ouais, c'est ça, d'alchimie, de lâcher prise. Et du coup, en fait, toi et moi, on n'a jamais eu la moindre pression. Et du coup, on a très vite réussi à se laisser aller, à être vraiment... on fonctionnait de manière très fluide et il n'y a jamais eu de choses sur lesquelles on a vraiment buté. Et du coup, on était tellement en confiance l'un et l'autre que les choses étaient vraiment facilitées. Et il n'y a jamais eu d'espèce d'appréhension, en fait. Et c'était vraiment... de l'apprentissage, parce que moi, j'avais pas une expérience non plus qui était faramineuse,
T'avais couché avec combien de filles avant
avec
moi?
une fille.
Ouais.
Et donc, du coup, j'étais dans l'apprentissage aussi.
Ouais.
Et le fait
Mais t'étais mieux renseigné que moi quand même, parce que tu connaissais. C'est toi qui me faisais découvrir quand même. Tu regardais des. T'avais déjà vu des trucs porno à l'époque?
Alors, encore une fois, on n'avait pas de smartphone, on avait Internet pourri. Et
ouais.
C'était. Non. Et puis, de toute façon, j'ai jamais été vraiment très porno. C'est pas quelque chose qui m'excite vraiment parce que c'est pas quelque chose dans lequel je me retrouve en fait. Et j'ai besoin un peu de me projeter pour ressentir des choses et pour être excité. Le porno, c'est pas quelque chose dans lequel j'arrive à me projeter, quoi. Donc du coup, ça me... Je sais pas, c'est peut-être plus qu'on était vraiment à l'écoute des corps de l'un et
Ouais.
l'autre. Et quand t'es vraiment à l'écoute, tu arrives à percevoir ce qui, entre guillemets, ce qui fonctionne. Et du coup, c'est une espèce d'osmose comme ça qui se crée. Ouais.
Ouais, puis on était attirés physiquement aussi l'un par l'autre.
On était très attirés physiquement l'un par l'autre, ouais, clairement.
Moi, je me souviens que j'étais quand même assez jalouse parce que tu de Flavie, tu te souviens, Flavie?
Je me souviens que tu étais jalouse, ouais.
Bah, juste titre, je crois, hein, quand même.
Et
Tu l'as
non, mais
kiffé
non.
bien.
Je l'ai kiffé quand un mec de 17 ans ou 18 ans on peut kiffer une nana qu'il trouve jolie, quoi. Mais c'était pas. J'avais pas d'envie particulière, quoi. Mais après, c'est peut-être le fait que tu as été hyper jalouse qui a fait que j'ai continué à titiller un petit peu ce
Alimenter ça?
côté. Ouais, peut-être. Je me dis,
Ah, mon
peut-être que.
Dieu!
Alors, avec tous les plans que tu as fait pour te rapprocher de moi, je pense qu'un plan inconscient de moi
Ouais.
qui explore un petit peu ça, hein, ok.
Ah non,
Mais.
je te le pardonne, mais je me souviens, ça me faisait mal. Une fois, je me souviens que tu avais parlé ou montré une photo d'elle à Ferdinand.
C'est possible. C'est possible, ouais. C'est possible.
Et que j'étais arrivée et que je vous ai, vous faites quoi? Et vous étiez sur l'ordinateur et tu montrais une photo d'elle. Et ça m'avait envoyé un poignard dans l'âme.
Ah,
Horrible.
dans
C'était
l'âme.
haut.
Ah
Ah,
ouais, je suis.
ça m'avait brisé en des milliards, des milliards, des milliards de morceaux. Ah, j'étais oh, jalouse, mais à mourir, à mourir.
Mais je pense quoi qu'il en soit, c'était vraiment notre histoire que je voulais dans tous les cas. Parce que je retrouvais vraiment quelque chose de fou et de vraiment tellement intense que j'arrivais pas à imaginer quelque chose d'autre en fait. J'avais trouvé une espèce d'équilibre dans cette folie qu'il y avait et dans cette passion qu'il y avait. Et il n'y avait rien d'autre dont j'avais envie. Hein.
Et ensuite, ça finit. Je sais pas exactement comment ça s'est terminé, mais t'as rencontré une autre fille. Ça a été ça, ça a été Nat ensuite.
C'est vrai, ouais. C'était en 2000, 2000, fin 2000, 2006, début 2006, ouais.
Et moi, j'étais encore amoureuse de toi et j'allais vous stalker, vous discutiez sur un blog. Je me demande si
C'était
c'était
sur un
pas.
forum,
Sur un forum,
ouais.
et tous
C'était un
les jours, je me
forum, ouais.
connectais et je connaissais vos pseudos et je voyais, et en plus, vous mettiez vachement de cœur, vous déballiez un peu votre histoire sur ce forum avec les
Bah.
autres
Ouais, c'est
et...
parce qu'en fait, ce forum, c'est un forum qui a fédéré beaucoup de gens qui ont été et qui sont toujours des très très bons amis. Et du coup, c'était un lieu où on se retrouvait parce que on se ressemblait tous quelque part. Et c'était encore une fois, c'était une petite bulle dans laquelle on se sentait tous à l'aise parce qu'on se reconnaissait tous. Et effectivement, c'était le déballage, ouais. Mais
Et moi, je te stalkais, et après, j'ai fini par la rencontrer, Nat, mais des années après, une fois, un soir, à un bar, tu te souviens? Et vous étiez plus ensemble. Je sais pas ce que c'était. Vers Oberkampf, tu te souviens pas? Une soirée dans un bar, et elle était là.
alors c'est
Un
possible,
concert.
ça me dit vaguement quelque chose, mais
Ou alors c'était l'un de tes concerts.
ça me dit vaguement quelque chose, mais j'en ai pas le souvenir. Donc je saurais pas te dire.
Mais en tout cas, on s'était revus au Starbucks des Grands Boulevards pour prendre un café.
Ouais.
Et on se parlait pas beaucoup. Hein. Et ensuite,
Non, on se parlait pas beaucoup. Ouais.
c'était assez froid cette fois-ci. Je sais pas pourquoi on s'en voulait, ou je sais pas pourquoi on n'avait pas réussi à communiquer. Et il y a eu une fois plus douce quand on avait pris des cocktails au Brébant.
Oui, et puis c'est en fait, il y a eu effectivement, il y a toute une période où on n'arrivait plus du tout à communiquer, et je pense que on avait besoin de cette espèce de rupture qui fait que nos chemins se prenaient des directions, qui étaient opposées. Et après, on a réussi un petit peu quand même à radoucir les choses et à se rapprocher, tu sais, comme deux enfants avec un petit bâton qui vont aller se taquiner comme ça, en disant bon, ouais, finalement, tu sais, moi, je pense
finalement,
que
on reste amis.
On a vraiment tellement peu l'occasion de rencontrer des gens qui dont on reconnaît la couleur entre guillemets, que c'est une chance immense et plus le temps passe, plus je réalise que c'est quasiment criminel en fait d'écarter de sa vie ou de ne plus prendre des nouvelles ou de ne pas entretenir de lien avec des gens avec lesquels on a vécu des choses fortes, parce que c'est tellement rare. Et je pense que de toute façon, le but d'une vie, c'est de partager. Pour moi, le partage, c'est vraiment tout, 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 tout. Et c'est absolu. Et quand tu trouves des gens dans ta vie, quand tu croises le chemin et que tu passes des moments avec des gens où tu te reconnais, où tu te sens à l'aise, où tu arrives à être toi-même et à t'exprimer, t'as pas le droit, en fait, qui sortent de ta vie et qui disparaissent, parce que c'est tellement rare que il faut conserver ces liens. Et c'est pour ça que 15-16 ans après, on est là en train de parler. C'est hyper important.
C'est fou. Après, c'est vrai qu'on s'est... J'étais souvent... Ensuite, on a grandi, on a dépassé l'adolescence, on a eu la vingtaine. Et souvent, je t'appelais... C'était moi qui t'appelais tard le soir quand j'étais triste et que ça se passait mal avec un mec. Que ce soit, je dirais pas les prénoms parce qu'il faut pas que je dise les prénoms dans mon podcast, mais que ce soit un tel ou un tel, d'histoire que j'ai pu avoir après, je t'appelais et j'étais un peu, mais pourquoi ça se passe comme ça, et je comprends pas, etc. Et
bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu des relations qui ont été longues. J'ai pas eu beaucoup de relations, mais elles ont été longues. Alors que toi, tu as eu quand même des longues relations, mais t'as beaucoup eu plus, t'as eu des espèces de relations parfois même toxiques, mais tu te bombardais en fait de plein de choses et t'avais comme une espèce de boulimie de vivre plein de choses. Je parle pas forcément de sexe, mais du coup, effectivement, je me rappelle que tu m'appelais souvent pour me raconter des choses qui t'allaient pas, des fois où t'étais triste, des fois où t'arrivais plus à te retrouver, souvent que t'étais perdu et que t'étais toujours en quête. Il y a ça aussi chez toi qui a toujours été très forte, une quête d'idéal et une quête de choses que tu veux atteindre et que tu veux trouver en l'autre. Quand je dis l'autre, c'est vraiment avec un A majuscule. Et du coup, t'étais souvent insatisfaite et tu vivais très mal. Et c'est vrai c'était une période où on en avait beaucoup parlé. Ouais.
On s'est même revus une fois des années plus tard pour faire l'amour chez moi à Strasbourg-Saint-Denis.
Exactement, ouais. C'était alors ça, il me semble que c'était en 2014 ou en 2015, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. Et on s'était revus, et c'était une période où j'allais pas vraiment bien, j'étais vraiment pas bien, et bah, tu m'avais conseillé ton psy à l'époque.
Ah ouais, ouais. Ah ouais, je me souviens. Ouais.
Et du coup, bah justement, on en avait parlé de tout ça. On avait parlé du fait que je vois ton psy.
On était gros tous les deux, non? On était moches tous les deux.
Ouais, on avait pris du poids tous les deux. Ouais, c'était vraiment une sale période.
On avait pris du poids. Franchement,
mais du coup, on s'était quand même vu, et j'avais adoré ton appart. Il était incroyable.
Ouais. Mon appart était magnifique à Strasbourg-Saint-Denis.
Incroyable cet appart. Et la pièce où il y avait.
Mais tu verras, mon appart à Bagnolet, il est encore plus ouf. Ma terrasse, c'est incroyable. Elle est trop belle.
Mais en fait, le souvenir le plus percutant que j'ai, c'est la pièce où. Bah, ta chambre, en fait. Où vraiment, il y avait une ambiance particulière. Et, et on avait quand même passé un chouette moment.
Oui, bien sûr. C'est vrai que c'était bien, mais. Mais ça avait pas quand même le goût de ce qu'on avait pu vivre des années plus
Non,
tôt, clairement.
mais complètement, parce que il y avait trop de choses qui s'étaient passées, et en plus, encore une
Ouais.
fois, c'était une période où tous les deux on allait, mais genre
Ouais.
super mal.
Ouais.
Et
C'est clair.
limite, je me demande pas pourquoi on s'est pas effondré en larmes tous les deux en couchant
C'est
ensemble.
clair.
C'est
Putain,
genre, mais en
je
fait, ça
pense que
va pas du
c'est...
tout, mais moi non plus. Et finalement, tu vois, qu'on
Mais non, mais
finisse
parce que
par.
c'est notre exigence sexuelle qui fait que si on se... C'est fou qu'on ait eu un rapport et qu'on se soit pas dit, mais viens, en fait, on le fait pas, quoi.
Ouais. Mais
Bah, si on a quand même trouvé le désir pour le faire, c'est que devait quand même y avoir quelque chose,
je pense
mais
pas
en
que ce
effet.
quelque chose, c'était pas que de la nostalgie et du une espèce de réminiscence de ce qui s'était passé, hein. C'était vraiment qu'on on en avait envie, mais c'est vrai que c'était particulier, ouais.
Ouais. Non, clairement, c'est sûr que on a tous les deux pu traverser des épisodes assez sombres, assez dépressifs, clairement.
Ah oui, mais complètement, et je pense que c'est quelque
Et
chose
on prenait des
qui...
médicaments tous les deux à cette époque.
Exactement, ouais. Mais je pense que ces périodes-là, elles sont un peu indissociables à notre nature profonde et ce qu'on est foncièrement. C'est un peu quelque chose qu'on essaie de dompter, c'est quelque chose qui est très... C'est comme la marée, en fait. C'est à des fois où tu vas avoir des périodes où... T'as l'impression que t'es plus léger, que tu vas respirer, et que tu entrevois les choses de manière positive. Et puis d'un coup, tu vas te prendre une tempête dans la gueule. Et nous, ça a jamais été quelque chose qui était plat dans nos ressentis, dans nos émotions. C'est soit très très fort et soit complètement catastrophique. Parfois, je me dis que c'est une bénédiction parce que on arrive à ressentir des choses que peu de gens, enfin avec une intensité beaucoup plus forte que la plupart des gens, et c'est une chance parce que c'est quelque chose qui permet aussi d'être artistiquement productif, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement violent et qui est très dur et qui parfois arrive même à te décrocher un peu du réel parce que tu te dis c'est pas possible, si le réel c'est aussi violent, ça peut pas exister quoi.
Aujourd'hui, tu prends toujours des médicaments?
J'en prends pour dormir j'en prends de temps en temps lorsque je me sens trop submergé pour pouvoir nager contre le courant et que je m'en sens pas à la force, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça n'a rien à voir avec la période où j'en avais vraiment besoin pour vivre, limite, tu vois. Alors que maintenant, c'est plus... pour rectifier un tir qui dévie un petit peu trop, tu vois. Donc ça va être de manière beaucoup plus ponctuelle qu'une routine régulière, en fait.
Mais ça avait pas marché avec mon psy finalement, tu t'auto-médicamentais avec ton généraliste, t'as jamais réussi à trouver un psy ou une psy
Ah si, 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 parce que...
Psy?
En fait, j'ai mis du temps à l'apprivoiser, mais c'est quelqu'un que je vois encore.
Ah bon, je savais pas, tu
Ouais...
continues de le voir?
Je
Ah
le
ouais?
vois depuis 2014, quoi.
Ok.
Je le vois toujours et c'est quelqu'un qui, effectivement, au début, on a eu du mal à s'accorder parce que, il y avait un énorme chantier, entre guillemets, et il essayait de comprendre. Et moi, en fait, j'étais tellement perdu que j'arrivais pas à l'exprimer et que j'arrivais pas à exprimer ce qui allait pas tellement ça allait mal. Puis petit à petit, il m'a donné des clés. C'est-à-dire que il y a des fois où je sortais de séance. Et il y avait un mot qu'il avait dit ou un truc qui avait fait que ça m'avait fait avancer. Et il y a eu aussi cette période où justement il y a eu une grosse cassure un petit peu après la dernière fois où on s'était vu, où j'ai été vivre chez mon formateur parce que je suis agent cynophile, donc j'ai un chien, je forme des chiens. Je fais de l'éducation canine et mon formateur, j'avais récupéré une petite chienne qui allait être euthanasiée, qui était en fourrière. Mon instructeur m'a demandé de passer juste pour voir à quoi elle pouvait ressembler, etc. Dans mon dos, il a téléphoné au directeur pour me prendre en formation, en fait, pour former la chienne. Ça, c'était en début 2016. Début 2016, ça m'a changé la vie. Et c'est ça qui a réussi à me raccrocher au réel parce que Je me suis retrouvé en colocation quand même, et pour moi c'était inenvisageable, sachant que ça s'était pas très bien passé la première fois que j'avais été en coloc. Et ça m'a vraiment remis sur une piste et sur un chemin de vie où j'ai pu trouver un équilibre qui a fait que j'ai pu donner les moyens au psy de faire son travail. Et du coup, maintenant, je le vois toujours et c'est quelque chose, c'est quelqu'un que qui a été très très important dans ma vie, ouais, et qui l'est toujours.
Ah bah, hey, de rien.
Et je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, que
Ah ouais, c'est vrai.
ouais. Et
Je
c'est vrai
savais
que
pas que tu.
si, ouais, je le vois toujours, je le vois
Bah
toujours.
ouais, tu te rends compte qu'on partage le même psy, c'est quand même pas rien.
C'est
Et que
pas
c'est
rien.
moi qui.
C'est
C'est quand
pas
même
rien.
moi qui t'ai filé mon psy, et c'est l'un des trucs les plus précieux que j'ai, c'est mon psy quand même.
Ah, mais c'est
C'est
clairement
aussi.
l'un des trucs les plus précieux que j'ai actuellement, hein. C'est une personne qui est hyper, hyper importante. Et c'est une personne qui est hyper bienveillante dans la mesure où c'est une personne qui est pleine d'abnégation. Ça m'est déjà arrivé de faire des séances d'une heure, voire plus. C'est une personne que j'ai déjà pu appeler à 2 heures du matin, qui m'a répondu immédiatement. C'est vraiment, ouais, c'est quelque
Tu me
chose
donnes
de
envie de
fort.
l'appeler, je vais l'appeler. Ouais.
Ben, pareil, ben, il m'a dit que effectivement les séances elles étaient toutes annulées jusqu'à nouvel ordre
Ouais.
dû à la crise sanitaire, mais que je pouvais l'appeler quand je voulais. Enfin, c'est hyper fort en fait. Et donc voilà, c'est vraiment une très très belle rencontre et une rencontre qui a été très importante. Ouais. Et c'est grâce à
Je
toi,
suis contente.
oui.
Bah oui, c'est vrai, c'est fou, bah
Et
oui.
ouais.
C'est vrai que j'ai souvent essayé de mettre les mecs avec qui j'étais chez le psy. Mais
Mais c'est hyper important pour moi, tout le monde devrait voir un psy.
Et comment ça se fait que tes histoires d'amour, finalement, il n'y ait pas eu une fille avec... Comment t'expliques que pourquoi les dernières histoires que tu as eues avec des filles n'ont pas marché?
J'ai eu des histoires qui ont été très fortes. J'ai une histoire qui a duré quand même quasiment 5 ans. Et tout, il y a eu une grosse scission parce que elle a été prise 1 an à la Columbia, à New York. Et à partir de ce moment-là, les relations à distance, forcément, ça ne fonctionne jamais, ça n'existe pas. Et toutes les personnes qui me disent que les relations à distance, ça existe, je leur dirais juste d'avoir un peu de patience et de voir. Je suis désolé, hein, pour ces personnes, mais voilà. Et les autres, en fait, je pense que il y a un manque de peut-être d'investissement de ma part, c'est-à-dire que je donne beaucoup, mais j'exige aussi beaucoup de solitude, beaucoup de moments à moi, et il y a vraiment cette dualité entre l'envie de m'investir et l'envie de d'être célibataire et de vivre comme un célibataire et comme le fait de pas en vouloir. J'envisage pas de vivre avec quelqu'un, c'est trop dur en fait pour moi. Et forcément dans un couple, quand ça commence à fonctionner, quand ça commence à aller, quand ça commence à être solide, la personne envisage ce genre de choses.
Bah oui.
Et moi, je suis très fermé à la question et je m'en sens pas du tout capable. Même quand je suis en relation, la personne qui passe une semaine chez moi, au bout d'un moment, ça commence à devenir compliqué pour moi. Et après, je suis pas toujours tombé sur les filles les plus stables de la Terre. Et elles avaient aussi leur travers. Et en fait, je suis très très souvent tombé dans ma vie avec des filles qui étaient très destructrices, autodestructrices. Et je me suis rendu compte que elles ont essayé de se sauver à travers moi aussi. Et je leur ai tendu la main et je leur ai attrapé la main. Et j'ai donné toutes mes forces pour les remonter à la surface. Mais je me suis rendu compte aussi que quand quelqu'un veut pas être sauvé, malheureusement, faut lâcher. Et ça m'est déjà arrivé, bah, avec ma dernière relation où je me suis rendu compte que si j'insistais et si j'essayais absolument de la relever et de la sortir de l'eau, ça ne marcherait jamais parce qu'elle nageait vers le fond et que finalement, bah, j'aurais été dans le fond avec elle et j'avais pas envie de me noyer avec elle. Et après, évidemment, que j'avais mes parts de responsabilité. Mais, C'est très compliqué d'être à la fois une personne la personne qui va sauver et à la fois quelqu'un qui est extrêmement fragile. Et en général, les personnes avec qui j'ai été cherchent ces deux aspects et essayent de s'aligner dessus. Et c'est très compliqué d'être à la fois avec quelqu'un de fort et d'hyper fragile en même temps. Et c'est très très compliqué à gérer.
Est-ce que toi, tu sais, c'est qui les meufs que tu veux ken? T'as un style de meuf maintenant? Qu'est-ce que tu chercherais aujourd'hui? Tu chercherais une fille qui puisse accepter ton style, c'est-à-dire qui soit d'accord de ne pas vivre avec toi, c'est ça?
En fait, j'ai envie de te dire oui, mais si je te dis oui, ça veut dire que j'accepte que ça ne changera jamais, alors que j'ai besoin quand même de quelqu'un qui va me pousser un petit peu, qui va être assez fine pour me faire faire les choses sans me les imposer et sans être violente et brute en fait. Et
Ouais, ce sera pas moi.
je pense que c'est ça en fait. C'est quand j'aurai trouvé la personne avec qui je m'accorderai, qui acceptera sans laisser traîner les choses et sans me laisser m'enliser en fait. Et je pense aussi que ce sera la personne que je trouverai que je serai bien avec moi. Parce que je pense, et la vie me l'a prouvé à maintes reprises, tu ne peux pas être totalement en harmonie avec quelqu'un si tu n'es pas bien avec toi-même. C'est impossible. C'est impossible. Même si, effectivement, tu peux aller mieux à travers cette personne et avec cette personne, mais tu dois pas te construire de manière un petit peu fébrile et bancale avec la personne, parce que tu peux créer l'univers le plus beau qui soit. Si tes fondations, elles sont pas hyper solides, il y a forcément un jour ou l'autre où tout va s'effondrer et ça va être catastrophique parce que j'ai toujours été avec des personnes qui ont été très passionné parce que moi aussi je suis très passionné et c'est ce qui est le plus destructeur en fait. C'est moi à chaque fois que mes relations sont terminées, ça a été extrêmement dur et j'ai mis tout le temps des années à m'en remettre parce que je donne tellement tout et je baisse tellement toutes les barrières que je laisse la personne, je suis à la merci de la personne en fait. Et du coup, une fois que ça se finit, c'est très très compliqué de se relever, mais je changerai rien. Je changerais ça pour rien au monde, parce qu'au final, c'est la façon la plus pure et absolue d'exister. Je pourrais jamais vivre en laissant des barrières érigées. Il faut être plein, il faut être totalement ouvert et il faut accepter d'être détruit à un moment ou à un autre, en fait, et être prêt à ça, parce que c'est à travers ça que tu vis de manière la plus folle, je pense.
Je sais pas si c'est le confinement ou le fait qu'il soit tard, ou je pense que c'est surtout parce que j'ai pris le soleil, mais j'ai mes yeux qui, toute notre conversation, j'avais les yeux qui me brûlaient comme si j'allais pleurer.
Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode avec Michael? Moi, parler avec mon amour de jeunesse m'a fait me questionner. Quel est l'homme dont je rêve aujourd'hui, que j'attends? J'aimerais un homme qui répare mon four Ikea de merde, ou m'explique comment l'utiliser, ou en achète un plus simple et qui fonctionne mieux d'une meilleure marque. Ou juste un homme qui aime cuisiner et saurait me concocter des repas sains, saurait comment cuire le saumon. Un homme qui m'apprenne à faire du jogging avec lui et on ferait de grandes balades en vacances, pas des randos hardcore, mais un homme qui aime le vélo et sache conduire. Il faudrait qu'il ait son permis et une voiture. Et idéalement qu'il soit propriétaire d'un appartement à Paris dans le 5e et d'une maison de campagne en Provence avec une piscine ou en Bretagne devant la mer. Mais avec de l'argent qu'il aurait gagné lui, il faudrait pas qu'il soit un héritier. Faudrait un homme de gauche qui aime lire les biographies et s'y connaisse en géopolitique. Je l'emmènerai souvent en Italie. Je lui ferai découvrir la Sicile, Syracuse, Cefalù. Il serait plus pratique que moi. Il m'aiderait à installer des plantes sur ma terrasse et ferait en sorte qu'elles poussent. Je serais l'artiste du couple et lui, le médecin ou l'ingénieur. Il me laisserait libre de créer, inventer, jouer, écrire. Il admirerait ma folie. Il aurait besoin de ma folie. Il voudrait des enfants. On attendrait 2 années avant d'en faire et puis hop, Il s'en occuperait bien, serait patient avec eux, il cuisinerait pour nous tous. Moi, je jouerais avec les enfants et leur ferais faire des spectacles. L'été, je superviserais la pièce de théâtre qu'écriront les enfants avec leurs copains et il serait le premier spectateur émerveillé. On aurait un garçon et une fille. Une fille qui écrit et un garçon qui aime les maths. Et ils feraient tous les deux d'un instrument. On réussirait à leur témoigner énormément d'amour sans les étouffer. On réussirait à être ambitieux pour eux sans trop leur mettre la pression. Ambitieux pour qu'ils aient une éthique de travail mais sachent rêver, s'amuser, nous désobéir. Cet homme ne serait pas mon meilleur ami. On ne se comprendrait pas toujours, mais on serait follement attirés sexuellement l'un par l'autre et cela viendrait de notre profonde estime mutuelle et de nos deux physiques avantageux. On serait très beaux ensemble et très forts. Il serait doux et moi sensuel. On ne se parlerait pas pour ne rien dire, on se dirait « je t'aime » en faisant l'amour. Il serait très pudique et détesterait parler de lui, mais respecterait mon narcissisme. Je serais excitée par sa pureté et qu'il ne fasse pas sa pute et soit totalement ok avec l'idée de déplaire. Il me trouverait intelligente et je le trouverais fort. Les autres corps disparaîtraient autour de nous, la tentation des autres corps. Resterait pour moi le public et pour lui le ciel, qu'il aimerait observer, la nature, la vie, le réel.
Les mecs que je veux ken.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.